France Culture.
18h, le journal de Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin et bonsoir à toutes et tous. Combien de morts après la répression des dernières manifestations en Iran? Le régime des Mollahs affirme que 3000 personnes sont mortes, dont la majorité serait selon lui des martyrs, membres des forces de sécurité. Selon plusieurs ONG, le bilan est beaucoup plus lourd, jusqu'à des dizaines de milliers de victimes. Précision de Hajra Mohamed. Le drame de Minneapolis, retour sur les faits. Noémie Lair a analysé seconde par seconde les images des différentes vidéos prises. Elles contredisent point par point la communication de l'administration Trump selon laquelle les agents fédéraux qui ont abattu samedi Alex Preti étaient en état de légitime défense. Avec Étienne Monin, nous soulignerons que les enquêtes en cours ne sont pas toutes menées sans entrave. Dans l'actualité française, la fermeture définitive de Betaram, l'institut catholique privé visé par des centaines de plaintes pour violence. Une proposition de loi visant à lutter contre, je cite, de nouvelles formes d'antisémitisme fait polémique. Élément de compréhension, Aurélie Kiefer. Enfin, 72 noms d'illustres femmes scientifiques pourraient tatouer la Tour Eiffel, puissante ambassadrice d'un combat au long cours. L'égalité homme-femme, initiative soumise cet après-midi à la mairie de Paris. Explication Benoît Grossin. Après vérification, l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks confirme que l'Iran reste complètement coupé d'Internet. Une décision visant selon elle à, je cite, masquer l'ampleur de la répression meurtrière contre les civils. Quelle ampleur ! Le régime est à l'affût de toute précision livrée et fait courir les risques que l'on imagine à celles et ceux qui bravent l'interdit. Combien de morts sous les balles et les baramines des supplétifs des gardiens de la Révolution ? Plusieurs estimations existent et toutes disent que le bilan pourrait être bien plus élevé que les milliers de morts déjà confirmés. L'hebdomadaire américain Time Magazine, hebdomadaire américain, évoque même aujourd'hui, Hajra Mohamed, un nombre de 30 000 victimes.
30 000 morts en deux jours seulement, les 8 et les 9 janvier, au tout début de la contestation donc. Le Time Magazine cite comme source deux responsables du ministère de la Santé iranien qui lui racontent « Le nombre de victimes est tel qu'il n'y avait plus assez de sacs mortuaires pour les corps, plus assez d'ambulances pour les transporter. Elles ont été remplacées par des semi-remorques. » Récit glaçant qui concorde avec les témoignages et les chiffres établis ces derniers jours par plusieurs ONG également, toutes basées à l'étranger. Aux États-Unis, par exemple, Human Rights Activist News Agency recense près de 6 000 personnes tuées, mais elle examine également 17 000 autres décès possiblement liés à cette répression. L'ONG Iran Human Rights en Norvège, elle, redoute les 25 000 morts, alors que la chaîne d'opposition Iran International affirme pour sa part que plus de 36 000 Iraniens ont été tués. Elle cite notamment des sources sécuritaires sur place. En Iran, où le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a prévenu il y a 10 jours lors d'un discours retransmis par la télévision nationale. Les autorités briseraient le dos des séditieux. Message adressé aux Iraniens qui seraient tentés de redescendre dans la rue pour manifester.
Hajra Mohamed, le mouvement islamiste palestinien Hamas estime que la découverte du corps de Ran Gvili, dernier otage israélien retenu à Gaza, confirme son engagement entre guillemets pour le cessez-le-feu signé le 10 octobre dernier. L'armée israélienne a annoncé en début d'après-midi avoir identifié sa dépouille au lendemain de fouilles sur des indications du groupe armé. Le Hamas qui rappelle au gouvernement israélien sa promesse de rouvrir le passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte à la fin du processus d'identification de toutes les victimes israéliennes. Aux États-Unis, pays où les polarités politiques gouvernent les âmes, vous n'avez pas accès à la même réalité, mais vraiment pas la même selon que vous regardez Fox News ou bien que vous choisissez CNN. Le traitement médiatique du drame de Minneapolis est à cet égard exemplaire. Après quoi, les indignations sont telles, y compris au sein du camp républicain, que la Maison-Blanche est malmenée. Les appels se multiplient pour demander une enquête indépendante après la mort d'un nouveau manifestant lors d'un rassemblement contre les opérations de ICE, la police fédérale de l'immigration. Alex Preti a lui été tué samedi à Minneapolis par des agents fédéraux de la police aux frontières. La scène a été filmée. Noémie Lair, vous avez analysé seconde par seconde les images des différentes vidéos prises et elles contredisent point par point la communication de l'administration Trump.
Il est un peu plus de 9h samedi, au beau milieu d'une rue de Minneapolis, devant un magasin de donuts, des manifestants s'opposent à une intervention de la police de l'immigration. Plusieurs témoins filment la scène sous différents angles. On y voit une manifestante poussée au sol par un agent fédéral. Un homme s'interpose, c'est Alex Preti. D'après le clan Trump, cet infirmier de 37 ans s'est approché des agents avec un pistolet. Mais ce n'est pas exactement ce que montrent les images. Alex Preti a une main en l'air et tient son téléphone dans l'autre. L'infirmier a bien un pistolet, mais accroché à l'arrière de son jean, une arme qu'il possédait de manière légale, selon la police de Minneapolis. L'un des agents l'asperge de gaz lacrymogène au visage. Sept policiers l'entourent, tentent de le plaquer au sol, le frappent. Quelqu'un crie « gun », « arme ». Un huitième policier attrape le pistolet d'Alex Preti. Puis au moins 10 coups de feu sont entendus. Selon le ministère de la Sécurité intérieure, les policiers étaient en état de légitime défense. Mais quand on décortique la scène, à aucun moment le manifestant n'a menacé les agents avec son arme. Pire, au moment des coups de feu, Alex Preti n'était plus armé. Pas de quoi déstabiliser les proches de Donald Trump qui qualifie l'infirmier d'assassin, qui voulait massacrer les forces de l'ordre. Mais les images ne trompent pas. Alex Preti a reçu plusieurs balles dans le dos, à bout portant, alors qu'il était au sol et désarmé.
Un autre proche conseiller de Donald Trump, et non des moindres, puisqu'il s'agit de son conseiller anti-immigration, Tom Homan, est en route pour Minneapolis, une visite au cours de laquelle il va devoir réagir à des obstacles faits à la tenue d'enquêtes en cours. Des enquêtes, car deux citoyens américains sont morts en à peine 15 jours à Minneapolis. La justice fédérale a bien pris les choses en main, et sur le fond comme sur la forme, ce qui se passe est sujet à caution. Étienne Monin, que se passe-t-il autour des dérapages présumés de la police de l'immigration ?
Il y a une lutte d'influence autour des enquêtes. L'échelon local est entravé au profit du FBI et du ministère de la Justice. Aux États-Unis, pour les enquêtes, il y a deux niveaux. Le national, qui est aujourd'hui dirigé par des fervents partisans de Donald Trump, et le niveau local, qui est situé pour Minneapolis, dans un État démocrate, dirigé par l'ancien colistier de Kamala Harris. Cette mainmise sur l'enquête s'est vue après la mort de Rene Good, le 7 janvier. Le FBI a bloqué l'enquête locale et orienter les investigations pour s'intéresser non pas au tireur, mais à l'entourage de la victime. Ce parti pris a provoqué la démission de 6 procureurs et d'un agent du FBI, mais il s'est répété ce week-end et le Minnesota a dû saisir un juge qui a interdit la destruction des preuves, ce qui témoigne du niveau de méfiance autour des dérapages présumés de l'ICE. Visiblement, l'administration américaine est empoisonnée par la violence des tensions politiques. La justice est saisie à tous les échelons. Le gouverneur démocrate du Minnesota a aussi attaqué les opérations de l'ICE. Et en retour, l'État attaque le gouverneur pour entrave.
Étienne Menin, échange de vues entre le Parlement européen et Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, intitulé qu'il faut habiller d'enjeux lourds de conséquences comme les visées états-uniennes sur le Groenland, un multilatéralisme aux soins palliatifs, des frontières qui à l'Europe, à l'Est de l'Europe, sont sur le qui-vive. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Fabien, vous avez suivi la prise de parole de Mark Rutte devant le Parlement européen.
Effectivement. D'abord sur le premier sujet, le Groenland, le patron de l'OTAN se savait très attendu par les eurodéputés après ses discussions avec Donald Trump à Davos la semaine dernière. Voici l'engagement qu'il dit avoir pris auprès du président américain.
Ce dont nous avons discuté la semaine dernière, c'est de la responsabilité collective de l'OTAN dans la défense de l'Arctique. Ce que nous devons faire ensemble, c'est empêcher la Chine et la Russie d'y prendre pied de manière économique ou militaire.
Mark Rutte a également évoqué les pourparlers en cours sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine en pensant déjà à la suite.
Les garanties de sécurité sont évidemment très importantes pour le gouvernement ukrainien. Avant d'accepter n'importe quel accord ou compromis, il est crucial d'être sûr qu'à l'avenir, les Russes ne tenteront plus de s'attaquer à l'Ukraine.
Cela passera par un front commun, occidental, États-Unis et Union européenne ensemble. L'Europe ne pourra pas se défendre seule, a d'ailleurs insisté Mark Rutte cet après-midi, sans le soutien des États-Unis.
Merci à vous, Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. Il est 18h presque 10 minutes. Vous écoutez le journal de France Culture. Un soulagement, une victoire et de l'amertume quand ce n'est pas la colère qui domine. Voilà ce qui anime les collectifs des victimes de Bétaram après la confirmation dans la journée de la fermeture définitive de l'Institut catholique privé, site visé par plus de 200 plaintes d'anciens élèves pour des violences commises depuis les années 50. Fermeture confirmée, c'est une chose, mais que deviennent les 160 collégiens encore scolarisés dans l'établissement? C'est bien là que le bât blesse, Hakim Kasmi.
Oui Mathieu, ces élèves vont être transférés d'ici la rentrée à l'ensemble scolaire du Beau-Rameau à 4 km dans la commune d'Igon, à 4 km de Bétaram. En effet, les deux établissements ont fusionné en 2009. Une décision qui laisse sceptique Constance Bertrand, porte-parole du collectif des victimes de Saint-Dominique à Denay-sur-Seine, un établissement qui d'ailleurs a accueilli et même un employé exfiltré de Bétaram.
Les mécanismes de déplacement des personnels incriminés sont quelque chose qu'on connaît bien, puisque nous, à Saint-Dominique de Neuilly, nous avons hérité de Damien Saget quand il a quitté Bétaram. Donc je ne suis pas très impressionnée par ces annonces. Je trouve qu'elles sont un peu maladroites, faites dans la précipitation. Je pense encore une fois que les victimes de Bétaram méritent mieux. Je me demande si elles ont été concertées sur l'avenir de ce bâtiment. Je pense qu'on peut mieux faire, on doit mieux faire pour les victimes de Bétaram.
De son côté, Jean-Pierre Macias, le président de la commission indépendante sur Bétaram, estime que la fermeture en soi de l'établissement ne changera rien, mais que la priorité doit être l'accompagnement des victimes.
Le mal est fait pour les élèves qui ont été victimes de Bétaram. Ils sont désormais, ils sont plus à l'école et il faut s'occuper d'eux. Et on s'est rendu compte avec cette affaire que beaucoup n'avaient pas été soignés et qu'à la traumatisation née de la violence subie, il y a une traumatisation née de l'impunité et du déni, mais globalement la sensation que rien ne bougera de nouveau et qu'ils n'ont pas été vraiment entendus. Et donc, je crois que beaucoup plus important de fermer Bétaram et de savoir ce qu'on va en faire. Et de la commission, nous, on a proposé à ce qu'il devienne un centre de prise en charge pour les victimes de Bétaram, mais surtout après, parce que c'est l'absence de soins qui est très importante.
Une proposition qui, pour l'instant, a peu de chances d'être retenue, dans la mesure où le secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, a indiqué ce matin qu'il souhaitait que Bétaram soit vendu afin que cela permette d'indemniser les victimes.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Deux ressortissants britanniques soupçonnés d'être venus en France à l'appel de l'extrême droite pour participer à une mobilisation interdite contre les migrants près de Calais ont été placés en garde à vue dimanche pour provocation à la haine. Ce lundi, la défenseur des droits, Claire Hédon, alerte sur l'usage d'armes de force intermédiaires par les policiers et gendarmes à l'encontre des migrants, des forces de l'ordre qui, dans certains cas, ne respectent pas les règles en vigueur, écrit-elle. Par armes de force intermédiaire, il faut comprendre pistolet à impulsion électrique, lanceur de balles de défense, LBD ou encore grenade lacrymogène. Sombre perspective pour l'audiovisuel public, enfin encore plus sombre que les années précédentes au cours desquelles les moyens ont fondu à bon rythme. La partie dépenses du budget sur laquelle le gouvernement a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale prévoit 86 millions d'euros de baisse pour les médias publics. La plus grosse entreprise, France Télévisions, sera aussi la plus touchée, avec une baisse de 80,2 millions de son budget par rapport à 2025. Radio France, elle, subira une coupe de 4,1 millions d'euros. Bonsoir, Wafia Kenich.
Bonsoir.
Wafia, à coup sûr, des restrictions qui pèsent lourd.
Oui, à chaque nouveau budget, la tension pèse un peu plus fort sur les salariés de France Télévisions. Réaliser le même travail avec chaque année moins de moyens, comme dans un plan social sans fin, explique Antoine Chusseville, journaliste à France Télévisions et secrétaire général du Syndicat national des journalistes.
Au bout de plusieurs années d'économie, de plusieurs années d'efforts, il y a un moment où ça va plus être possible pour une entreprise d'avoir 2 à 3 suppressions de postes chaque semaine. Parce que France Télévisions, il faut bien avoir en tête qu'on supprime 2 à 3 postes chaque semaine, 2 ou 3 emplois par semaine, quasiment 1500 sur une période de 10 ans. Ça devient une équation impossible et pour les salariés, il va falloir à un moment que ça s'arrête. On ne pourra plus produire une télévision de qualité en étant toujours moins nombreux.
8000 personnes travaillent actuellement au sein de France Télévisions contre 9500 il y a 10 ans. Alors qu'entre-temps, le groupe a lancé une nouvelle chaîne d'information en continu, France Info Télé. Avec les nouvelles coupes budgétaires, les salariés craignent que la réduction ne se fasse au détriment de la diversité, notamment du territoire. Éléonore Duplay, journaliste à France 3 Pays de la Loire, déléguée syndicale SNJ-CGT.
Les téléspectateurs de Nantes, ils ont perdu plusieurs minutes quotidiennement dans chaque journal, en fait, d'informations régionales qui porteraient, en fait, sur les Pays de la Loire. Puisque, avec la mise en place des nouvelles éditions ici, il y a 2 ans, on doit intégrer dans notre journal régional de l'actualité nationale et internationale. Du coup, notre journal, il offre moins de proximité.
Enfin, les syndicats de France Télévisions alertent l'État et la tutelle. Après 10 ans d'économie et d'efforts, les salariés du service public se sentent abandonnés.
Wafia Kenich, restons à l'Assemblée nationale. Après le texte visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, les députés sont censés, s'ils en ont le temps, étudier ce soir une proposition de loi visant à lutter contre, je cite, de nouvelles formes d'antisémitisme. Portée par Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger apparentée Renaissance, la proposition de loi a été adoptée en commission par 18 voix contre 14. Le texte suscite, on le voit, de fortes inquiétudes. Ces derniers jours, plusieurs tribunes d'intellectuels et personnalités de confession juive ont appelé les députés à le rejeter. Un rassemblement a été organisé à la mi-journée à Paris, à l'initiative d'organisations pro-palestiniennes. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
Vous allez nous dire ce qui fait polémique.
Eh bien, c'est la notion même d'antisémitisme. Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et l'impitoyable riposte israélienne, le sujet est inflammable. Quand elle parle de nouvelles formes d'antisémitisme, Caroline Yadan vise l'antisionisme radical. Selon elle, la haine de l'État d'Israël est consubstantielle à la haine des Juifs. Avec la création d'un nouveau délit d'appel à la destruction d'un État et une répression renforcée des infractions de provocation et d'apologie du terrorisme, elle veut mettre un coup d'arrêt aux actes antisémites qui se sont multipliés en France.
La nature des actes a changé. Les atteintes aux personnes représentent aujourd'hui 65% des actes recensés en 2024. Menaces, insultes, agressions, violences, discriminations visant directement des hommes, des femmes, des enfants parce qu'ils sont juifs. Décomplexés, dissimulés sous le masque du progressisme et des droits humains, délégitimés au nom d'un faux humanisme, cette haine s'affiche désormais sans honte dans la rue, à l'université, sur les réseaux sociaux.
Mais les opposants au texte, militants de la cause palestinienne, défenseurs des droits humains, également chercheurs, dénoncent une réponse juridiquement inadaptée et politiquement problématique à la réalité de l'antisémitisme en France. L'historienne Sophie Bessis qualifie le texte de catastrophique.
Quelqu'un qui critique la politique de l'État d'Israël lui-même, sa fascisation actuelle, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que cet État a commis à Gaza depuis 2 ans et demi, relèverait de sanctions pénales. Donc c'est interdire toute liberté d'opinion, toute liberté d'expression.
Et l'historienne s'insurge contre la confusion entre juifs, Israël et sionisme, un amalgame volontaire selon Sophie Bessis qui va jusqu'à parler d'antisémitisme caché.
On ne peut pas envisager chez certains qu'un juif puisse être juif sans être pro-israélien et sans être attaché à la politique d'annexion de la droite israélienne. C'est absolument inadmissible.
Les opposants pointent aussi l'introduction de critères flous et extensifs risquant de créer une insécurité juridique.
Merci de vos explications, Aurélie Kiefer. Comment promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur la Tour Eiffel ? Près de 140 ans après sa construction, une initiative soutenue par la mairie de Paris prévoit l'inscription aux côtés des noms de 72 hommes déjà distingués historiquement par Gustave Eiffel, d'un nombre identique de noms de femmes scientifiques au premier étage du monument. La liste vient d'être officiellement présentée à Anne Hidalgo, l'hôtel de ville, par l'association Femmes et Sciences qui a mené ce long travail de sélection en lien avec les organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM ou l'INRIA, ainsi que de nombreuses associations scientifiques françaises et internationales. Benoît Groussin.
Les prix Nobel Marie Curie et sa fille Irène Joliot-Curie font évidemment partie des 72 femmes sélectionnées et il s'agit aussi de mettre en lumière de grandes scientifiques ignorées ou invisibilisées aux côtés d'Ampère, Lavoisier ou Becquerel, inscrits en lettres d'or dans ce projet initial de Gustave Eiffel réservé aux hommes, qu'il est temps vraiment de compléter selon l'astrophysicienne Isabelle Vauglin, vice-présidente de l'association Femmes et Sciences, en couvrant presque 250 ans d'histoire.
des femmes du passé, comme Angélique Ducoudray, qui a beaucoup fait pour faire reculer la mortalité maternelle et infantile.
Il n'y a pas de souci.
Comme Sophie Germain, cette mathématicienne exceptionnelle qui a été obligée de passer avec un nom d'homme pour avoir accès aux cours de polytechnique. Sébastienne Guyot, qui a fait partie de la première promotion de femmes ingénieures de l'école centrale. Et puis, quelques étrangères aussi qui ont eu un apport considérable, comme Rose Dieng, la Sénégalaise, qui est la première femme africaine à entrer à Polytechnique. Et on espère, avec la puissance du symbole de la Tour Eiffel, que ces femmes vont devenir des modèles, des références féminines pour les jeunes générations.
Les académies des sciences, des technologies et de médecine, ainsi que les ayants droit des femmes scientifiques sélectionnées, doivent encore donner leur feu vert avant la réalisation en début d'année prochaine de cette frise de 72 savantes, juste au-dessus de la frise des 72 savants sur les quatre côtés du premier étage de la Tour Eiffel.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. La perturbation pluvieuse traverse le pays demain d'ouest en est, temps relativement doux. La limite pluie-neige se situe vers 1800-2000 mètres sur les Pyrénées, 1300-1500 mètres sur les Alpes. Ce journal a été préparé avec Alison Wickrebeck, à la technique Marie-Claire ou Mabadi.